Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire, à ouvrir au passage Philippiens chapitre 4, versets 2 à 23. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai trouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler, l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédonie, aucune église n'a pris part avec moi et un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, il y a plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Éphraudite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.
Prions. Père Céleste, de nous d'étudier attentivement ce passage. Permet que nous te connaissions comme un Dieu bon et un Dieu généreux. Et que ça puisse évacuer en nous toute résistance par rapport à la vie chrétienne. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. C'est le dernier passage de cette lettre, le dernier exposé de cette série. Le dernier exposé, c'est aussi l'occasion de regarder en arrière et de faire un bilan de ce qu'on retiendra de cette lettre. Du début à la fin, Paul a débordé d'enthousiasme. Au premier chapitre, il nous donnait un aperçu de comment l'Évangile avait bouleversé sa vie et ses perspectives, au point de l'amener à avoir un état d'esprit extrême. Chapitre 1, verset 21, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Paul n'a pas mis par écrit juste une réflexion personnelle. S'il écrit une lettre à des destinataires, c'est bien qu'il a un motif. Et s'il écrit cette lettre, c'est pour les encourager, ces Philippiens, et tous les chrétiens après eux, à adopter ce même état d'esprit. Pourquoi est-ce que Paul serait aussi insistant à notre égard également? D'une part, adopter cet état d'esprit, c'est se donner les moyens d'une conduite digne de l'Évangile du Christ. Adopter cet état d'esprit, c'est se donner les moyens d'une conduite digne de l'Évangile du Christ. Et c'est ce dont Paul nous aura convaincus à la fin du chapitre 1 et au chapitre 2. Et d'autre part, adopter cet état d'esprit, c'est suivre la seule trajectoire sécuritaire jusqu'au jour glorieux où nous serons trouvés en Christ. Adopter cet état d'esprit, c'est suivre la seule trajectoire sécuritaire jusqu'au jour de Christ. Et c'est ce dont Paul nous aura convaincus au chapitre 3. Admettons que vous en soyez au point où vous voulez bien considérer que Christ est votre vie et que mourir vous est un gain. Quelles inquiétudes pourraient encore vous hanter et vous habiter à ce stade ? Si vous avez suivi attentivement ce que Paul a écrit jusque-là, il y a effectivement de quoi être inquiet. Nous serions en droit de penser que Paul nous réserve une vie instable et misérable ici-bas. Si vous pensez que j'exagère, relisez cette lettre à tête reposée et vous verrez combien elle est extrême. La vie chrétienne tranquille et modérée telle qu'on l'imaginait en prend un coup. Et du coup, les inquiétudes s'accumulent. Prenez Christ et ma vie pour commencer. Si Paul veut qu'on imite la démarche humble et sacrificielle de Jésus-Christ, combien de temps ça nous donne à vivre avant qu'on ne meure d'épuisement ? 3 ans de service et puis s'en va ? Ou prenez mourir m'étinguin. Si Paul veut qu'on ait les yeux au ciel et qu'on se détourne des réalités de ce monde, s'il veut qu'on imite ceux qui ne se laissent pas intimider par une vie plus facile, combien de temps ça nous donne à vivre avant qu'on ne meure de faim ou d'isolement ? La grande question qui nous hante peut-être à ce stade de notre lecture, c'est celle-ci. Qui peut se permettre de penser et vivre de façon aussi radicale ? J'ai beaucoup de sympathie pour cette question, car je suis le premier à lever le bouclier face à la charge que Paul assène à tous les chrétiens qui veulent bien l'entendre. Mais est-ce qu'il est vraiment légitime d'exprimer et d'explorer cette inquiétude ? Si je me permets d'encourager et d'identifier un sentiment d'inquiétude en nous à ce moment-là, c'est bien parce que Paul s'attend suffisamment à cette réaction pour nous donner son chapitre 4. On aurait pu penser que la réunion glorieuse avec Christ, dont il est question au chapitre 3, suffirait à remplir nos esprits. Mais dans sa bonté, Dieu nous révèle aussi les vérités théologiques du chapitre 4. Et nos inquiétudes vont ici être traitées. Le réconfort du chapitre 4 nous est donné parce que c'est précisément ce dont on a besoin après ces 3 premiers chapitres. Même si la vie chrétienne est sacrément exigeante, c'est la vie la plus contentée qu'il nous soit donné de vivre ici-bas. Dieu nous rend la vie chrétienne plus aisée qu'on aurait pu l'imaginer. Il y a du contentement en abondance pour ceux qui adoptent un état d'esprit chrétien radical. On va désormais voir sous quels 2 angles nos inquiétudes sont traitées. Premier angle, versets 2 à 9. Psychologiquement, qui peut se permettre de penser et vivre ainsi ? Et voilà ce dont Paul nous convainc ici. Notre Dieu nous gardera en paix. Notre Dieu veut effectivement nous donner la paix, voyez le verset 7, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Puis le verset 9, et le Dieu de la paix sera avec vous. Cette promesse de paix intérieure, certains l'appliquent à tort et à travers. Nos milieux chrétiens, en effet, veulent bien recevoir la paix intérieure dont il est question au chapitre 4. Mais la vie chrétienne radicale qui justifie le don de cette paix, on en parle moins volontiers. On veut bien bénéficier de la bénédiction et on en oublie un peu vite le contexte. On fait tous face à beaucoup d'anxiété. Alors s'il y a un remède chrétien, bien sûr qu'on veut en bénéficier. Mais si c'est un remède au stress ambiant, est-ce que ce n'est pas une paix bon marché ? Et si la paix du chapitre 4 était une paix beaucoup plus essentielle et beaucoup plus fondamentale que ça ? Je m'explique. Si on a adopté « Christ est ma vie et mourir est un gain », on voit bien qu'on est au pied du mur. La vie qu'on va mener va être une vie où on va être poussé à bout. Qu'est-ce qu'on fait quand cet état d'esprit et le style de vie qui en découle a un coup sur notre mental ? On se frottera à d'autres. On s'épuisera pour l'affermissement et le salut de beaucoup d'autres. On va devenir fou. Si on veut vraiment la paix dans ce contexte-là, on n'a finalement que 2 options. Première option, en faire moins. Appuyez sur le frein. Et les psychologues vous diront effectivement de vous modérer. Deuxième option, suivre la stratégie qui nous est développée au chapitre 4. Mais soyons très clairs, ces 2 options sont différentes. Paul a écrit 3 chapitres pour que nous vivions des vies dignes de l'évangile du Christ. Toute la lettre de Paul nous encourage à nous engager résolument dans une vie chrétienne radicale. Le pied sur l'accélérateur. Alors avec son chapitre 4, Paul ne va pas défaire les pensées radicales qu'il aura implantées en nous. Donc la stratégie de paix du chapitre 4, ça ne peut pas être d'en faire moins. Et ça, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, n'est-ce pas ? Livrés à nous-mêmes, vous et moi, avons plutôt envie d'une vie chrétienne facile, si c'était possible, jusqu'au jour de notre mort. Voilà ce qui arrivera si on étudiait le chapitre 4 en isolation du contexte. On pourrait développer une spiritualité qui soit en fait déconnectée d'une vie chrétienne radicale. On pourrait cultiver un petit jardin secret, beaucoup plus agréable que la vie chrétienne qui nous sera donnée de mener. Et on finira par penser peut-être que le chemin spirituel de méditation que nous ouvre le chapitre 4 est beaucoup plus préférable et en tout cas supérieur au reste de la lettre. On voudra lire finalement au chapitre 4 presque une alternative à ce dont Paul a parlé jusque-là. Et nul ne présentera les choses comme ça, bien sûr. Aucun chrétien ne vous dira en pleine face qu'il a résolu d'en faire moins pour vivre mieux. On maquillera plutôt notre désir d'une vie confortable en prétendant comprendre la hauteur par rapport à la vie chrétienne. On spiritualise. Or, ça serait mal comprendre les conditions de la paix telles qu'elles nous sont données au verset 2 à 9. Cette paix vient en disposant son esprit consciemment. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous voyez tous les verbes à l'impératif, il s'agit de disposition d'esprit. Verset 4, réjouissez-vous. Verset 6, ne vous inquiétez de rien. Verset 8, portez vos pensées. Verset 9, mettez en pratique. À quoi est-ce que ça consiste, ceci dit ? J'aimerais suggérer que par rapport au reste de la lettre, il n'y a rien de nouveau. Cultivons l'état d'esprit, Christ est ma vie et mourir m'est un gain, et notre Dieu nous gardera en paix. Vous voyez les quelques références que j'ai imprimées sur le feuillet, qui renvoient à des passages précédents de la lettre, rien de nouveau. Les instructions qu'on trouve au chapitre 4 sont une déclinaison de l'état d'esprit, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Et donc pas une stratégie alternative pour obtenir la paix. Et du coup, le message de Philippiens n'en est que plus concis. Cultivons cet état d'esprit chrétien radical. Cet état d'esprit est bien sûr centré sur Christ. Christ est ma vie. Méditons sur Christ, serviteur humble, et laissons-nous modeler. Chapitre 2. Mourir m'est un gain. Méditons activement sur Christ ressuscité et laissons-nous modeler. Voir le chapitre 3. Cultivons cet état d'esprit. Voilà la seule chose sur laquelle se concentrer, car tout le reste en découle. Autant la vie chrétienne digne de l'évangile du Christ que la trajectoire affermie jusqu'au jour du Christ. Et ici, que la paix intérieure qui nous gardera jusqu'à la fin. Autrement dit, la paix intérieure vient de la même manière que nos vies chrétiennes se radicaliseront. Ça commence dans la tête. Cultivons un seul et même état d'esprit. Et du coup, on ne s'éparpillera pas. On pourra faire toutes choses d'un même cœur et d'un même esprit. On ne fera pas une chose et son contraire. On n'aura pas un pied sur l'accélérateur, chapitre 1 à 3, et en même temps un pied sur le frein. Pour ceux d'entre vous qui ont le permis, je ne vous conseille pas d'essayer. Appuyez d'un pied sur l'accélérateur et d'un pied sur le frein. C'est un coup à avancer par à-coup et probablement à foutre en l'air la voiture. Ici, on a un seul et même état d'esprit. Quel soulagement. On a mentionné la dimension psychologique. On en vient au deuxième angle, versets 10 à 23. Physiquement, qui peut se permettre de penser et vivre de façon aussi radicale ? Et voilà ce qu'il nous faut savoir, notre Dieu nous gardera satisfaits. Dieu promet de pourvoir aux besoins divers de tous ses enfants tant qu'il les garde en vie. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu envers ses enfants. La providence de Dieu envers ses enfants. Verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. » Il est possible d'être tellement effrayé par l'évangile de la prospérité qu'on en vient à minimiser les promesses qui nous sont effectivement faites dans cet âge qui est le nôtre, et ça serait dommage. Ici, il ne s'agit pas de prospérité d'ailleurs, mais de l'assurance que nos besoins essentiels seront pourvus. Et vous savez comme moi que les besoins, ce n'est pas la même chose que nos désirs ou nos ambitions. Est-ce que vous avez remarqué comment ce verset 19 commence ? Par une conjonction de coordination. Une chose est liée à une autre. Comme au verset 7, et la paix. Comme au verset 9, et le Dieu de paix. Comment est-ce qu'on entre dans cette deuxième promesse? Là encore, en disposant nos esprits de façon radicale. Cultivons l'état d'esprit. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Et notre Dieu nous gardera satisfaits. La vie de Paul à elle seule établit ce deuxième point. En voilà un qui cultive cet état d'esprit. Et en voilà un dont Dieu prend soin. Mais ce deuxième point est aussi vrai des Philippiens. Voyez le verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Les Philippiens regardent à l'intérêt de Paul, l'intérêt d'un autre. Ce qui nous renvoie à l'usage de ce mot un peu plus tôt dans la lettre, au chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Par son choix de mots au chapitre 4, Paul nous indique que les Philippiens sont déjà entrés dans cette attitude de service sacrificiel des autres. Vous voyez encore au chapitre 4, le verset 14. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. En un sens, il s'agit du partenariat financier dont il est question également au verset 15. Mais ça va plus loin. Ils ont pris part à sa détresse. Littéralement, les Philippiens ont communié à la détresse de l'apôtre. Et encore une fois, par son choix de mots au chapitre 4, Paul nous indique que les Philippiens sont entrés dans cette attitude de communion aux souffrances du Christ et de ses serviteurs, en l'espèce Paul. C'est à de telles personnes qui cultivent cet état d'esprit que Paul confirme que Dieu pourvoira. Qui sait d'où viendront ces ressources que j'ai mentionnées? Il est probable que ça ne tombera pas du ciel, effectivement. Après tout, Dieu a utilisé les Philippiens pour pourvoir aux besoins de Paul. Dieu utilise toute personne et toute circonstance pour accomplir sa promesse. Quant à nous, ne nous inquiétons pas. Quant à nous, ne nous tournons pas les pouces non plus. Servons comme Christ a servi, donnons comme Christ a donné, conscients que Dieu nous utilisera dans sa providence pour l'encouragement et la subsistance d'autres chrétiens. Cultivons cet état d'esprit et notre Dieu nous gardera en paix. Cultivons cet état d'esprit et notre Dieu nous gardera satisfaits. Tout ça c'est très bien, mais pourquoi est-ce que Paul voudrait conclure par ces bénédictions-là au chapitre 4 ? Regardez le verset 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit, la paix que Dieu donne gardera l'esprit bien disposé. La paix que Dieu donne gardera l'esprit bien disposé. Ce qui veut dire que si je n'avais pas cette paix, mes pensées iraient à droite à gauche. Je perdrais la tête, je ralentirais sans doute, je regarderais ailleurs, je ferai peut-être demi-tour. Mais parce que j'ai les bénédictions du chapitre 4, je peux continuer encore et encore. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dieu donne exactement ce dont ses enfants ont besoin, quand ils en ont besoin, afin de les garder en Christ, dans la vie chrétienne, dans laquelle ils sont déjà engagés. Et c'est pourquoi d'ailleurs Paul peut dire à propos des Philippiens ce qu'il disait au chapitre 1, si vous vous souvenez, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Paul en est persuadé parce que Dieu s'en assure. Les ressources de paix et de satisfaction qui me sont données ici-bas ne sont pas des fins en soi. Elles me sont données pour être réinvesties dans la vie chrétienne. Elles me sont données pour que je continue. Vous voyez, ce chapitre 4 n'est pas un refuge. C'est une partie intégrante de la vie chrétienne. Paul assure les Philippiens de la providence de Dieu afin qu'ils puissent disposer leur esprit de façon d'autant plus lucide et délibérée. De telle sorte qu'ils soient maintenus sur ce chemin radical et étroit qu'est la vie chrétienne. Et ça vaut pour nous tout autant. Si nous sommes chrétiens, Paul veut que nous cultivions cet état d'esprit radical sans cesse ni mesure. Il le dit d'ailleurs au verset 9. Il veut qu'on continue dans cette direction-là, car c'est la seule trajectoire sécuritaire jusqu'au jour du Christ. Et tout au long de cette vie chrétienne que l'on vivra, Paul veut qu'on se rappelle d'une chose. Dieu couvre nos arrières. Dieu couvre nos arrières. Pourquoi pouvons-nous nous permettre de penser et vivre de façon aussi radicale? Car Dieu s'occupe du reste. Et pourquoi Dieu s'occuperait-il du reste? Pour que nous puissions continuer de disposer nos esprits de façon lucide et délibérée, sans inquiétude et sans distraction. Je propose trois grandes lignes d'application avant qu'on conclue. Première application, un service d'autant plus sacrificiel. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand quelqu'un vient à vous et qu'au cours de la conversation, un besoin se présente, se fait sentir, un besoin qui vous coûterait beaucoup de satisfaire? On a chacun ses propres besoins. Pourquoi ça tombe sur moi? Qui sait en effet de quoi mon lendemain sera fait? Si je ne prends pas soin de moi, qui le fera? Souvent, c'est la considération de mes besoins propres qui m'amène à donner peu et à modérer mon service. Avec ce chapitre 4, je n'ai pas besoin de me comporter ainsi, car Dieu couvre mes arrières. Deuxième application, une position d'autant plus ferme. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous comprenez que votre fierté en Jésus-Christ pourrait vous attirer des ennuis? Imaginez qu'une personne haut placée dans votre entreprise vienne à vous et vous fasse savoir que votre fierté en Jésus-Christ, ça dérange un peu, et elle vous dit ça sur le ton du reproche. Vous vous dites peut-être, qui va pourvoir à mes besoins si j'en viens à perdre mon gagne-pain? Avec ce chapitre 4, je n'ai pas besoin de faire de compromis. Oui, conserver ma fierté en Christ, ça me coûtera peut-être ma réputation, mes perspectives de carrière, ma bonne entente avec un tel et un tel. Mais je ne suis pas tout seul dans cette affaire. Je n'ai pas besoin de réduire la voilure pour me conformer aux attentes de notre société et m'y faire accepter. Je peux tenir ferme et en subir les conséquences sans trop d'inquiétude, car Dieu s'occupe du reste. Est-ce que vous voyez combien ce chapitre 4 est précieux pour ceux qui auraient pris à cœur l'état d'esprit décrit dans les trois premiers chapitres? Mes épaules ne sont pas les seules à porter la charge de ma vie. Alors n'ayons pas peur du risque au nom du Christ, n'ayons pas peur de manquer au bout du compte. Notre Père Céleste pourvoit aux besoins divers de tous ses enfants, tant qu'il les garde en vie. Dernière application, un contentement d'autant plus effectif. Regardez les versets 11, 12 et 13. Verset 11, Paul dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Un contentement aussi inébranlable. Il y a des gens qui paieraient cher pour ça. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de plus désirable? Ces ressources de bien-être sont données à tous ceux qui s'approprient cet état d'esprit qui est centré sur Christ et modelé par Paul. Si nos esprits sont bien disposés, oui, on se sentira écartelé au service de Christ pour l'affermissement et le salut de beaucoup d'autres. Oui, on en viendra peut-être à perdre toutes les choses qui nous sont précieuses. Mais ce contentement relatif à nos circonstances psychologiques et physiques ne nous manquera pas, il sera toujours présent. Quelle belle manière pour Paul de terminer sa lettre aux Philippiens. La prochaine fois que vous pensez que Christ exagère de vous imposer un état d'esprit aussi radical et la vie chrétienne qui s'ensuit, ma prière c'est que vous puissiez savourer ce contentement durable dont Paul parle à mesure que vous méditez sur Christ serviteur et Christ ressuscité. Quelle autre vie voudriez-vous mener ici-bas? Vous trouverez quelques questions pour discuter autour de vos tables, si vous voulez bien, mais avant cela, je vais conclure en priant. Prions. Dieu de paix, Dieu de richesse, nous te louons pour qui tu es. Donne-nous d'avoir confiance en ta bonne providence, et que cela puisse nous rendre disponibles, affermis et contents dans la vie chrétienne. Renouvelle nos forces pour que nous puissions disposer nos esprits d'une manière qui t'est agréable. Et ceci jusqu'au jour où nous serons trouvés en Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen.